Et 150 ans plus tard, le jeune prêtre des missions étrangères de Paris sera canonisé, en compagnie de nombre de ses frères découpés, étranglés, brûlés ou décapités. Genre de mort, tête tranchée au sabre, crucifixion, démembrement, éviscération, noyade, tortures diverses, réciteraient les fiches des missionnaires en Asie. À quel saint demanderais-je le réconfort dans mon agonie? Saint Théophane Vénard, ou d'autres saints massacrés, ou tout simplement Saint Martin, le saint de mon enfance dont j'étais si fier en Autriche, lors des retraites au flambeau du 11 novembre. Pour mes concitoyens de Vienne, Saint Martin n'est pas Saint Martin de Tours, dont j'avais vu enfant le tombeau dans la basilique du même nom, dorée, orientale plus que gauloise, avec grand-mère et maman, ce qui, dans ma religiosité enfantine, me donnait une proximité privilégiée avec le légionnaire au manteau découpé, proximité associée aux roseaux des bords de Loire, aux bancs de sable, aux colonnes de porphyre du sépulcre souterrain et silencieux où reposait ce saint si charitable que, disait grand-mère, on pouvait solliciter son intercession à tout propos. Ce que je ne manquais pas de faire, maladroitement sans doute, pour réclamer bonbons, sucreries et jouets. Mes dévotions aux soldats évêques étaient tout à fait intéressées, et à Vienne, lorsque nous nous rendions à la campagne au milieu de l'automne pour manger l'oie de la Saint-Martin, ce volatile un peu sec était pour moi directement lié à Tours. Il en arrivait sans doute en volant. Si une cloche était capable de revenir de Rome pour annoncer la résurrection, une oie pouvait bien voler de Touraine jusqu'en Autriche pour rendre hommage au saint en se couchant toute rôtie entre les marrons et les Sowjetknödel. Étrangement, Saint-Benoît, bien que le village de grand-mère portât son nom, n'a jamais été pour moi autre chose que des phonèmes. Sans doute car, dans l'esprit d'un enfant, un légionnaire partageant son manteau avec un pauvre est bien plus attirant qu'un moine italien, si important fut-il pour la spiritualité médiévale. Saint-Benoît est pourtant le patron des agonisants. Voilà mon intercesseur. Je pourrais peut-être investir dans une image de Saint-Benoît, faire une infidélité à mon icône de Saint-Christophe. Le géant cananéen mourut lui aussi décapité à Samos. C'est le saint du passage, celui qui fait traverser les fleuves, qui porta le Christ d'une rive à l'autre, patron des voyageurs et des mystiques. Sara aimait les saints orientaux. Saint André de Constantinople ou Siméon le Fou. Elle racontait les histoires de ces folles en Christ qui usaient de leur folie pour dissimuler leur sainteté. Folie, à l'époque, signifiant l'altérité des mœurs, différence inexplicable des actes. Siméon, qui, trouvant un chien mort sur la route à l'entrée d'Émèse, lui noue une corde autour du cou et le traîne derrière lui comme s'il était vivant. Siméon toujours, qui joue à éteindre les cierges de l'office en y lançant des noix, puis, lorsqu'on veut le chasser, grimpe sur la chaire pour bombarder l'assistance de ses fruits secs jusqu'à chasser les fidèles de l'église. Siméon dansant, battant des mains et des pieds, qui raille les moines et mange des lupins comme un ours. Bilger est peut-être un saint, qui sait. Le premier saint archéologue, qui dissimule sa sainteté dans une folie impénétrable. Peut-être a-t-il connu l'illumination au désert, sur les chantiers de fouilles, face aux traces du passé qu'il tirait du sable et dont la sagesse biblique le pénétrait petit à petit jusqu'à devenir, un jour plus clair que les autres, un immense arc-en-ciel. Bilger est en tout cas le plus sincère d'entre nous. Il ne se contente pas d'une légère faille, d'insomnie, de maladies indéchiffrables comme les miennes, ni de la soif spirituelle de Sarah. Il est aujourd'hui l'explorateur de sa profonde altérité. Sarah était aussi très friande.